Good job. Good job, le podcast pour s'épanouir au travail.
Rester bien sage sans demander de promotion, ne pas s'énerver en réunion de peur de passer pour une hystérique, être parfaite et surtout plaire à tout le monde, tout mener de front quitte à s'oublier. Beaucoup de femmes aujourd'hui se mettent une pression immense et doutent de leur légitimité au travail. Pour vous aider à inverser la tendance, je reçois aujourd'hui Lucille Quillet, autrice du livre « Devenir badass au travail » paru aux éditions Diaténo. Un livre qui vous invite tout simplement à prendre la place que vous méritez, sans culpabilité mais avec authenticité. Alors, prête à vous affirmer et à assumer vos ambitions ? Bonjour Lucille !
Eh ben bonjour Fabienne !
Comment vas-tu ?
Eh ben très bien ! Et toi ?
Mais très bien, merci aussi. Merci de demander. On parle aujourd'hui, on est réunis pour un livre qui s'appelle du coup « Devenir badass au travail ». Mais ça veut dire quoi, être une badass au travail ?
Être une badass, alors ça veut dire plein de choses, mais surtout ça veut dire ne plus s'excuser, ne plus attendre les autorisations, poser ses propres limites, affirmer ce qu'on veut, exiger plus, bref, faire toutes les choses où souvent, en tant que femme au travail, on se dit « non, mais je vais passer pour une enquiquineuse, j'ai pas trop le droit, je suis pas vraiment légitime », et tout ce qui est dans la suite des syndromes de la bonne élève, de l'imposteur, et puis moi je parle aussi de deux autres syndromes, syndrome de la boule de cristal et syndrome de la miss. Ça je détaille dans le livre, on y reviendra peut-être. Mais voilà, être badass, c'est se décomplexer en fait, et avoir aussi conscience des inégalités systémiques qui nous entourent pour baisser un petit peu notre niveau de perfectionnisme au travail et arriver à avoir une carrière qui ressemble vraiment à ce qu'on mérite, en fait.
Comment tu expliques justement que c'est pas si facile ? Quels sont les freins, les obstacles, peut-être les blocages qu'on a encore aujourd'hui ?
Ouais, alors c'est des blocages donc, qui concernent particulièrement les femmes. Comment ça s'explique ? Par l'éducation qu'on a reçue. Évidemment, donc quand on est petite et qu'on nous dit qu'il faut rester sage, dire merci, être gentil, faire un bisou, et puis surtout rester à sa place, ne pas faire trop de bruit, ne pas couper la parole, et être, je veux dire, même dans une cour de récréation, hein, on le voit, il faut rester dans les petits coins, là où les garçons courent partout et vraiment occupent l'espace de façon beaucoup plus décomplexée, encore une fois. Et puis il y a aussi ce biais, on va dire, qu'ont les filles, qui est de vouloir être appréciée par les autres. Et ça, c'est très très fort quand on grandit, quand on est une petite fille, on comprend que notre valeur en tant qu'être humain dépend du regard des autres, de est-ce qu'on est apprécié, est-ce qu'on est jugé séduisante, sympa, gentille. C'est aussi pour ça que les femmes sont beaucoup plus dans le care. Voilà, elles ont cette charge mentale-là. Donc tout ça, en fait, tous ces biais vont rejaillir dans notre vie pro, mais pas de façon positive. Là où, scolairement, ça peut être plutôt un avantage parce qu'on est, est appliqué, on est sage, on fait bien ses devoirs, nous sommes des bonnes élèves, nous sommes des meilleurs élèves que les garçons, mais quand on passe dans la vie professionnelle, là, ça coince, les règles ont changé, les codes ont changé, on est moins dans une méritocratie, on va dire, basique, comme à l'école. Y a plus d'enjeux politiques, il y a plus de copinage, il y a plus de codes masculins, puisque le monde du travail a encore été façonné par des hommes pour des hommes. Et du coup, nous, on arrive et c'est un peu comme si on partait 3 mètres derrière la ligne de départ par rapport aux hommes.
Tu parlais du syndrome de la bonne élève, justement. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus et puis évoquer aussi le syndrome de l'impostrice ?
Oui, alors le syndrome de la bonne élève, c'est le fait de très bien travailler, mais rester assis sur sa chaise et attendre que la consécration, que la reconnaissance, que les promotions, que l'argent, que tout nous soit donné selon notre légitimité, mais que ça ne soit pas à nous d'être proactive. Donc, le cheminement, c'est de se dire « je travaille bien, donc je vais être récompensée ». Comme on se dit « je travaille bien, j'ai une bonne note ». Voilà, tout va bien. Sauf que ça ne se passe pas comme ça en entreprise ou même quand on est indépendante. Je veux dire, dans le monde du travail, il faut à la fois faire et faire savoir et demander et réclamer en fait ce qu'on mérite vraiment nous-mêmes. Donc parfois, c'est très difficile. Vous pouvez très bien travailler, mais ne pas être votre propre agent. Il faut être en fait son propre agent, son propre commercial et aller chercher parfois avec les dents ce qu'on mérite vraiment. Et ça, les bonnes élèves, elles ont du mal à le faire parce qu'elles se disent « si je mérite vraiment, ça va venir tout cuit, on va dire, sur mon bureau ». Sauf que non, et ça, c'est d'ailleurs un avantage pour plein d'entreprises de se dire « on a des femmes qui travaillent très bien, qui ne demandent pas plus, c'est tout bénef ».
Tu vas voir que ça fait écho. Je vais te faire écouter un extrait d'une interview de Marie Donzel, qui est directrice associée d'un cabinet qui s'appelle Alternego et qui a écrit un livre qui s'appelle « Les 7 icônes de la pop culture pour comprendre le sexisme ». Et elle, elle parle du syndrome de Cendrillon.
Il y a des tas de complexes que les femmes ressentent, mais pas que les femmes, qui vont, malgré elles et souvent inconsciemment, leur interdire de passer à l'étape de l'audace, de prendre leur élan pour la réussite. On peut citer par exemple le complexe de Cendrillon. Le complexe de Cendrillon, c'est un concept qui a été mis en place par Colette Dolling au début des années 80. Colette Dolling a été psychanalyste. On sortait de la révolution des mœurs, de la révolution sexuelle des années 70, et elle recevait des tas de femmes dans son cabinet qui avaient absolument tout pour réussir. Elles avaient fait des études, elles étaient bien dans leur basket, elles étaient épanouies, elles avaient une vie sexuelle libérée, elles se sentaient un droit à la vie personnelle. En revanche, elles ne se sentaient pas autorisées à réussir. Ne se sentant pas autorisées à réussir, d'une part, elles acceptaient des situations professionnelles insatisfaisantes, et elles pouvaient les accepter durablement, un petit peu comme Cendrillon ou les personnages féminins de contes de fées acceptent d'être maltraités et d'être sous-employés par une belle-mère acariâtre et vilaine pendant que leur père est très très loin. Et puis surtout, ces femmes, elles attendaient. Elles attendaient quelque chose. Que le prince charmant vienne. Un jour, mon prince viendra. Alors, dans le monde professionnel, c'était pas forcément le prince charmant qu'elles attendaient, mais en tout cas, quelqu'un qui allait découvrir la belle endormie en elle et la révéler, et lui offrir le destin qui était le leur.
Qu'est-ce que ça t'inspire ?
Je suis assez d'accord, du coup, avec Marie Donzel là-dessus. C'est vrai que cette position de passivité, on la retrouve beaucoup chez les femmes au travail, et de se dire il faut que quelqu'un, comme si on attendait le Pygmalion, le mentor, qui allait nous tirer par la main et nous faire monter sur l'estrade. On peut le faire nous-mêmes, en fait. On peut le faire nous-mêmes, on doit le faire nous-mêmes, on mérite de le faire nous-mêmes aussi. C'est vraiment des biais qu'on a très intériorisés, le fait d'attendre que les autres... En fait, c'est comme si on n'osait pas prendre le micro nous-mêmes. Et moi, c'est pour ça qu'en fait, j'enjoins les femmes à être plus égoïstes, plus prétentieuses, plus affirmées et plus badass, parce que c'est ça un peu. Et quand je dis égoïste et prétentieuse, parfois on me dit oui, mais quand même, c'est pas vraiment des qualités. Mais on part de tellement plus loin qu'en fait, être un peu plus égoïste et être un peu plus prétentieuse, c'est juste revenir au niveau un peu normal, quoi. Et là-dessus, je trouve qu'on doit vraiment se décomplexer et avancer. Et je suis assez d'accord avec ce syndrome de Cendrillon. Un jour, mon mentor viendra. Un jour, ma promotion viendra. Mon augmentation viendra, évidemment.
Quel conseil on peut donner justement, parce qu'il n'y a pas de fatalité, tu le disais, on peut être proactive et agir. Tu parlais notamment du faire savoir. Qu'est-ce qu'on peut donner comme tips ou comme conseil très concret ?
Déjà, je pense qu'à la racine, il faut avoir conscience de sa légitimité. Il y a deux gros sujets, je trouve, pour les femmes, c'est la légitimité et le perfectionnisme. La légitimité, c'est de se dire « je mérite d'aller demander plus ». Je suis assez intéressante pour aller à cette réunion, cet after work et faire du réseautage. Je suis légitime pour demander telle personne en contact sur LinkedIn parce que on va peut-être s'apporter des choses. Et ça, souvent, on est vraiment pleine d'autocensure et on se dit non, en fait, je ne suis pas assez intéressante, je ne suis pas assez légitime pour demander plus et tout. Alors, comment est-ce qu'on fait pour se sentir plus légitime ? Parce que les femmes mettent la barre très haut. On est très perfectionniste et on se dit je ne peux demander plus que si j'ai vraiment excellé cette année, ou je ne peux aller réseauter que si j'ai fait quelque chose d'exceptionnel. Il n'y a pas besoin d'être exceptionnel pour être légitime. Et surtout, alors ça va peut-être vous faire sourire, mais le premier conseil que je pourrais donner, c'est regarder autour de vous. Qui est 100% légitime à un niveau de perfectionnisme absolu. Et ça, c'est un peu comme quand on parle des quotas et qu'on dit oui, mais si on met des quotas de femmes... La question de la compétence, mais est-ce que les gens qui aujourd'hui sont à leur poste, dans des hauts postes, ou qui sont promus, est-ce qu'ils sont 100% compétents, ou est-ce qu'ils ont été nommés, est-ce qu'ils sont à leur place pour d'autres raisons ? Et encore une fois, le monde du travail a été façonné par des hommes pour des hommes. On sait qu'il y a des dynamiques de politique, de boys club, de copinage, de réseautage. On sait qu'on a tendance à embaucher des gens qui nous ressemblent, qui nous renvoient un reflet de nous-mêmes très valorisant. Du coup, on peut aussi se dire, en fait, est-ce que les gens qui sont promus, ils sont beaucoup plus légitimes que moi, pas forcément. Il y a plein d'imposteurs. Il y a plein d'imposteurs, ne l'oublions pas. Donc ça, c'est un peu le premier conseil déjà, d'avoir conscience de ce contexte-là, très inégalitaire. Et puis aussi de se dire, en fait, nous, on travaille beaucoup. Parfois, on travaille deux fois plus et mieux que beaucoup d'hommes. On est moins bien payé. On doit subir des discriminations, du sexisme parfois. On a en plus la charge mentale de la conciliation vie privée-vie pro. Bref, on en a beaucoup dans la charrette. Donc, on pourrait quand même se décomplexer et ne pas avoir en plus des scrupules à tendre une carte de visite, à demander plus, surtout qu'on n'a pas grand-chose à perdre. Et pour ça, un autre conseil assez concret, même si ça peut sembler abstrait comme ça, c'est déjà d'essayer de passer 24 heures en se disant « je me fiche du regard des autres ». En essayant de se libérer de ce poids-là, parce qu'il y a tellement de moments au cours d'une journée, que ce soit avec son N+1 ou sa N+1, ou avec ses collègues, qu'ils soient hommes ou femmes d'ailleurs, où on va se dire « je ne vais pas dire ça, je ne vais pas demander ça, je ne vais pas dire non, parce que qu'est-ce qu'on va penser de moi ?» Et ça, c'est quelque chose aussi que beaucoup de femmes, que moi j'entends de la part de beaucoup de femmes, « je ne vais pas demander plus parce que je n'ai pas envie que les autres pensent que je travaille pour l'argent ». Mais c'est très bien de travailler pour l'argent. On le fait un peu tous, je pense. Donc là-dessus, cet enjeu du regard des autres, il est très, très pesant. 24 heures en étant complètement décomplexé vis-à-vis de ça, en n'ayant pas peur de ne pas être apprécié. Il vaut mieux être estimé que être très apprécié au travail, quitte à se faire marcher dessus, quoi.
Il y a un moment dans l'année qui est important et puis qui arrive pour beaucoup, c'est l'entretien annuel. Comment on fait pour pas se louper, justement, quand c'est le moment de négocier ?
Eh ben, on le prépare. Et puis en fait, l'entretien annuel, maintenant ça va être peut-être un peu tard, mais en fait, c'est un peu la cerise sur le gâteau, mais il faut déjà le préparer des mois à l'avance. Déjà, comment est-ce qu'on le prépare ? On arrive avec du factuel, on arrive avec de l'objectivité. Parce que ça aussi, c'est quelque chose que je recommande beaucoup aux femmes, parce qu'elles sont pleines de leur subjectivité, de se dire « je ne mérite pas ». Les chiffres ne mentent pas. Un constat froid, factuel de ce que vous avez fait, de ce que vous avez réussi, noir sur blanc, voilà, ça parle. Et en fait, vous avez une fiche de poste. Enfin, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de fiche de poste d'ailleurs, mais je leur recommande fortement de demander à la faire, parce que c'est vraiment une photographie à l'instant T de votre travail. Mais si vous avez une fiche de poste, prenez-la. Et tout ce qui dépasse, tout ce que vous faites en plus, que ce soit l'encadrement du stagiaire, de l'apprenti, les petites missions en plus, les représentations à droite à gauche, et ben tout ça, en fait, ça légitime de demander plus d'argent ou de demander une promotion ou de demander autre chose que de l'argent. Hein. D'ailleurs, on peut négocier d'autres choses que de l'argent. Mais voilà, en tout cas, ça va venir en fait légitimer votre demande. Donc ça se prépare avec du factuel. C'est bien quand même d'envoyer un peu des signaux à son N+1 ou à son N+2, ça dépend avec qui on fait son bilan annuel, avant sur ce qu'on veut. Est-ce que je veux plus d'argent ? Est-ce que je veux une promotion ? Est-ce que je veux d'autres missions ? Est-ce que je veux d'autres conditions de travail ? Je veux dire, on ne peut pas arriver le jour de l'entretien et dire, en fait, je veux ça, et s'attendre à ce qu'on nous dise oui tout de suite. Et surtout, venez avec de la pugnacité. C'est-à-dire qu'on va vous dire non. Parce qu'au début, on dit toujours non. Voilà. On va vous dire non. C'est un match en plusieurs rounds, la négociation. Et quand on vous ferme la porte, il faut passer par la fenêtre. Et quand on vous dit non pour plus d'argent, il faut demander de meilleures conditions de travail ou un aménagement. Tout ce qui, en fait, nous n'avons pas tous les mêmes besoins, mais tout ce qui va rendre votre travail plus agréable et vous donner de la reconnaissance. Mmh. Et donc ça, c'est toujours c'est comme sur un ring de boxe. Il y a plusieurs rounds. Il faut des noms pour arriver à un oui. Et donc, ne jamais se décourager. Et une fois qu'on vous dit non, la conversation n'est pas terminée, en fait. Voilà.
On lâche rien.
On lâche rien. Et surtout, mettre bien les choses par écrit après l'entretien annuel. Voilà.
Quand on est manager ou RH, qu'est-ce qu'on peut faire aussi, peut-être, pour instaurer un climat ou un environnement favorable pour que les femmes puissent prendre leur place ?
On arrive au niveau plus politique, qui est très important. Parce que, certes, en tant que femme, en tant qu'individu, on peut faire beaucoup de choses à son échelle, on peut travailler sur ses billets, on peut faire du coaching pro. Il y a un moment, si vous êtes face à un employeur qui choisit de vous discriminer, le coaching pro ne peut rien pour vous. Et ça, je trouve que c'est... Enfin, moi, dans mon travail de coach, c'est quelque chose sur laquelle je suis très ferme. On peut faire beaucoup de choses, mais on n'est pas responsable de tout. Et il y a aussi tout ce contexte d'inégalité qui est très pesant. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est à un niveau RH ou manager ? C'est déjà... d'arrêter de discriminer des femmes, d'arrêter de supposer à leur place. Et parce que parfois, ça part aussi d'un bon sentiment. Quand vous avez quelqu'un qui revient de congé maternité et que vous vous dites, je vais pas lui donner le gros dossier du moment parce que elle doit avoir des problèmes de sommeil potentiellement, elle a peut-être pas l'énergie pour ça. Ça part d'un bon sentiment. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est poser la question à la personne et la laisser décider par elle-même. Et ça, souvent, on se responsabilise à la place des femmes en pensant à leur place. Et là, c'est vraiment le tapis rouge pour les stéréotypes genrés. Voilà. Et aussi, les femmes se surresponsabilisent vis-à-vis des autres en se disant non, j'ai pas envie d'embêter, j'ai pas envie de leur prendre des risques, faire des erreurs. Donc là-dessus, arrêtons tous et juste posons-nous les questions et voilà, laissons-les décider par elles-mêmes. Déjà ça. Après, on peut faire plein d'autres choses, mais ça, c'est de la culture d'entreprise aussi. Moi, je trouve que sur la question des salaires, en fait, on pourrait même se dire est-ce que c'est juste que chacun doive négocier son salaire, voilà, encore une fois, en étant son propre agent, son propre commercial. Est-ce que ça serait pas juste de rémunérer les gens selon leur mérite objectif et pas selon leur qualité de rhétorique, en fait ? Donc là-dessus, si vous instaurez une meilleure transparence des salaires en entreprise, vous instaurez sans doute plus d'égalité et plus d'attractivité pour vos salariés, je pense.
Je voulais te partager également un extrait du livre « Une farouche liberté » de Gisèle Halimi. Et elle termine son livre en s'adressant aux femmes d'aujourd'hui en leur donnant quelques conseils. D'abord, soyez indépendante économiquement. C'est une règle de base, la clé de votre indépendance, le socle de votre libération. Ensuite, soyez égoïste. Je choisis ce mot à dessein. Il vous surprend ? Tant pis. Les femmes ont trop souvent le sentiment que leur bien-être doit passer après celui des autres. Les parents, les enfants, les compagnons, le cercle familial ou professionnel. Elles craignent de s'imposer, d'exiger, de révéler leurs envies ou ambitions, de se mettre clairement en avant. Ce n'est pas qu'elles soient naturellement modestes, c'est juste que l'histoire leur a dicté cette attitude de réserve, voire de retrait. Une femme ne doit pas faire de bruit, ne doit pas déranger, ne doit pas se faire remarquer, ne pas avoir l'esprit de compétition, ne pas chercher la gloire. Ça, c'est réservé aux hommes. Mais rebellez-vous, pensez enfin à vous, à ce qui vous plaît, à ce qui vous permettra de vous épanouir, d'être totalement vous-même et d'exister pleinement. Envoyez balader les conventions, les traditions et le qu'en dira-t-on. Fichez-vous des railleries et autres jalousies. Vous êtes importante, devenez prioritaire.
Oui, non mais 10 000 fois oui. Après, c'est vrai que je trouve que ce qui est compliqué quand on est une femme, c'est que si on fait tout ça, on a peur de se retrouver très seule. Et donc, si je peux ajouter humblement un petit conseil, c'est d'être bien entouré, c'est de bien choisir la famille on la choisit pas forcément, mais ses amis sa partenaire, de bien aussi dire à ses enfants, si on a des enfants, expliquer pourquoi c'est important que on va au travail, on a une vie à soi et qu'on n'est pas une mère sacrificielle, évidemment les enfants passent en priorité dans bien des cas, mais vraiment, je trouve que c'est important d'avoir un entourage qui ne vous fait pas culpabiliser, qui ne vous juge pas, pour se dire que on peut être tout ça, on peut être affirmé, on peut prendre la place. Il s'agit pas d'attendre l'autorisation, mais d'avoir du soutien, parce que en fait c'est très compliqué de prendre la place, et on sait, et notre société n'aime pas trop les femmes qui parlent fort, qui vont être exigeantes, qui vont demander des choses, parce qu'on est encore avec cette espèce d'épée de Damoclès comme quoi on va être une enquiquineuse ou une hystérique ou tout ce qu'on connaît trop bien. Donc là-dessus, je trouve que l'entourage aussi, choisir des gens qui nous aiment pour ce qu'on est entièrement et qui nous acceptent aussi en parlant fort, en prenant de la place et en ayant des exigences, c'est important.
Et on parlait du perfectionnisme tout à l'heure, c'est important aussi de ne pas trop se mettre la pression, notamment le côté Wonder Woman, de vouloir justement tout gérer de front.
Ah mon Dieu, la Wonder Woman, je la déteste, pardon, c'est une énorme arnaque, la Wonder Woman. Ça, c'est vraiment le côté, vous arrivez à tout faire, mais en fait, c'est tout faire en faisant tout toute seule. Donc, énorme arnaque, parce que à la fin, vous êtes en burn-out, que ce soit burn-out professionnel, parental, burn-out de vie. La Wonder Woman, c'est, en fait, en résumé, demander aux femmes de tout faire et de se contenter d'applaudissements à la fin, Sauf que bah, les applaudissements, ça ne se mange pas. On aimerait avoir plus de droits, plus d'argent, et ça, que ce soit au travail comme dans la vie personnelle. Des dessins de fête des mères ou dire tu es une mère incroyable, une Wonder Woman, c'est super, mais en fait, quand on a besoin de plus d'égalité, de plus de partage des tâches pour ne pas oublier en fait sa propre individualité. Un dessin ou un applaudissement ou un remerciement, ça ne suffit pas. Et c'est un petit peu hypocrite aussi.
Et c'est aussi poser des limites aux autres, ouais, pour ne pas s'oublier.
Oui, poser des limites aux autres, mais il faut pas. En fait, c'est compliqué parfois de le faire seul aussi. Et notamment, si je prends cet exemple-là du congé maternité, congé paternité, vous avez 16 semaines versus un mois. Mm.
Et quand le mois est pris, encore.
Et quand le mois est pris, oui, oui, merci. Donc c'est compliqué de poser des limites quand la société aussi perpétue des schémas inégalitaires. Moi, je trouve ça fou, en 2023, que deux parents ne se valent pas. En fait, c'est ça un peu qu'on nous dit. Donc poser des limites, oui. Et parfois, je pense qu'il faut les imposer et vraiment partir. Enfin, moi, je vois beaucoup d'hommes qui sont très à l'aise à dire je ne peux pas rester, je ne peux pas prendre mon congé parce que j'ai des réunions, parce que j'ai des mal. Il y a toujours des très très bonnes raisons. Il faut aussi arriver à dire moi ça c'est une très bonne raison, mon travail est important, je pars, je vais à ce, voilà, et se débarrasser un peu de cette culpabilité. Mais là c'est un autre sujet, la culpabilité féminine. Mais encore une fois, en regardant autour de soi, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui se mettent autant la pression et qui mettent la barre aussi haut que les femmes. Et pourquoi faisons-nous tout ça? Parce qu'on peut être très heureux sans être parfaite.
Mmh. Et oui, ça ferait du bien.
Oui, oui.
Si on va un petit peu dans le futur, en 2050, à ton avis, ce sujet, il sera comment? Sera où?
Ah, mon Dieu, en 2050. Je ne sais pas, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui changent. J'ai l'impression que dans les nouvelles générations, ça change vraiment beaucoup. Moi, je suis née en 89. Dans les années 2000, être féministe, c'était pas du tout un compliment. Quand on parle des inégalités, maintenant, il y a beaucoup plus de réception, on va dire, mais aussi parce qu'il y a les réseaux sociaux et parce que les femmes s'écoutent entre elles et comprennent qu'elles ne sont pas seules et isolées et que du coup, c'est une vague d'ampleur. Des inégalités systémiques, comme on dit. Donc je pense que ça fait qu'on gagne beaucoup de temps. Parce que si on attendait l'autorisation des RH ou des politiques pour obtenir l'égalité, on attendrait très très longtemps. Et là, les réseaux sociaux, tous ces témoignages, tout ce partage de femmes entre elles, c'est une vague du coup qui fait que les choses vont être, vont devoir changer obligatoirement. Donc je pense que ça va continuer, que ça va s'amplifier. Mais c'est un équilibre entre ce qu'on peut faire à son échelle personnelle et ce qu'il faut faire au niveau politique. Mais j'espère quand même qu'en 2050, on aura avancé. Mais déjà, c'est fou de se dire que ça fait pas si longtemps que ça qu'on a le droit de vote, qu'on a le droit d'avoir un compte en banque, qu'on a le droit de divorcer sans l'autorisation de son mari, tout ça. Donc en fait, c'est vrai que parfois, c'est très décourageant. Et d'un côté, moi, il y a des fois, je me dis, mais il y a 60 ans, on était dans un autre monde. Et c'est rien, 60 ans. Donc, en 2050, j'imagine qu'on aura fait des pas de géant. J'espère qu'on sera toutes des badass et qu'on arrêtera de s'excuser.
Ça nous irait bien, en effet. Ouais. La fin de ce podcast, en fait, j'aime toujours que mon invité pose une question à mon invité d'après sur son sujet à lui ou à elle. Et donc, tu vas écouter la question de Margot Gelin qui était venue nous parler de charge mentale au travail.
Alors, cher invité, ce que j'aimerais savoir, quand je parle de surcharge mentale, très souvent, les personnes disent « j'ai hâte d'être en vacances, j'ai hâte d'être en week-end ». Et j'aimerais savoir un petit peu, toi, quand tu te retrouves en état de surcharge mentale et que ça y est, tu arrives à arriver dans un moment où tu peux couper, que ce soit les vacances, peut-être le soir ou les week-ends, qu'est-ce qui te permet d'évacuer la surcharge mentale, et est-ce que réellement, quand on est en congé, on arrive à complètement se mettre dans des tâches sans être dans un état de surcharge mentale?
C'est une très bonne question. Particulièrement quand on est indépendant. Moi, c'est vrai que ça fait plusieurs années maintenant, ça fait 5 ans, 6 ans que je travaille en indépendante, et on a du mal à débrancher. On a du mal à couper, en fait. Il y a à la fois la charge mentale, mais la déconnexion qu'on a du mal à faire avec le travail, parce que vous êtes votre propre boss. Alors moi, parfois, je me dis, en fait, tu es une boss maltraitante avec toi-même, puisque tu fais trop de présentéisme, et tu travailles le week-end, et voilà. Donc, il y a un moment, il faut juste couper. N'importe quel mail peut attendre 24 heures. Un téléphone rangé, ça fait beaucoup de bien. Donc éteindre son téléphone, tout simplement. Après, comment est-ce qu'on arrive à se vider la tête, faire des choses manuelles aussi, sortir. Moi, je sais que j'écris des livres, j'écris des articles, je suis très dans ma tête. Au bout d'un moment, il faut aller nager dans une piscine. Vous n'avez plus de téléphone, vous n'avez plus de mail et vous n'avez que vos bras pour nager. Donc voilà, essayez de se déconnecter un peu comme ça. Ouais. Basique, mais ranger le téléphone, a priori, ça marche bien.
Basique, mais efficace.
Voilà, exactement.
Quelle serait ta question pour mon prochain invité ?
Eh bien, que fais-tu pour valoriser les femmes autour de toi et reconnaître leur travail ? Je ne sais pas à qui est cet invité, mais du coup, voilà, c'est quelque chose qui peut être intéressant parce que tous à notre échelle, on peut valoriser et aider à l'égalité avec des tout petits coups de pouce, mais qui peuvent être très efficaces. Donc voilà, je demanderai ça peut-être.
Et ce sera un partage de bonnes pratiques.
Voilà.
Merci beaucoup, Lucille.
Et bien, merci pour l'invitation.
Et à très bientôt. Bonne journée.
À bientôt. Au revoir.
Good job. Good job. Le podcast pour s'épanouir au travail.